Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je remercie notre Seigneur de nous faire cette grâce, de nous instruire encore aujourd'hui afin que nous puissions être accomplis et porter du bon fruit. Merci Seigneur. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons essayer de creuser dans la parole de Dieu pour savoir pourquoi et comment se réjouir dans les épreuves. Alors, lorsque une difficulté nous tombe dessus, notre première réaction en général est souvent d'avoir peur. On se met en colère ou peut-être on pleure. On peut aussi avoir un sentiment d'amertume ou se renfermer sur nous-mêmes. Et c'est totalement logique, hein, puisque c'est souvent avec cette idée-là ou cet exemple qu'on se construit. En réalité, oui, c'est logique parce que la plupart des gens, et même ceux qui ont parfois une éducation religieuse, à l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou d'une grosse épreuve qui arrive devant nous, on est tétanisé en fait. C'est comme un véritable tremblement de terre qu'on est obligé de surmonter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on a tendance à réagir? Ben, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. Le ciel, à ce moment-là, s'assombrit. Tout autour de nous devient un environnement hostile. Les gens nous paraissent plus agressifs envers nous. Personne ne peut nous comprendre. Voilà, tout devient compliqué en fait. On entre alors dans une espèce de tunnel noir au bout duquel on voit pas la fin ni aucune lumière. Donc le sentiment d'être complètement perdu, abandonné arrive, et parfois même un sentiment de désespoir. Alors tout ça, on le connaît bien, hein, chacun, je pense, parce que personne a priori n'est en position de pouvoir dire qu'il n'est jamais passé par là. Même Jésus, justement, dans le jardin de Gethsémané, en a fait les frais. Matthieu 26, versets 37 et 38, nous dit: Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc Jésus lui-même a éprouvé de la tristesse et des angoisses, hein, de telle sorte que à un moment donné, même ces gouttes de sueur étaient comme du sang qui coulait, comme si cette douleur venait d'une plaie ouverte et qu'il se vidait de son sang en fait. En gros, il devait avoir l'impression de perdre toutes ses forces, d'être complètement, d'avoir les jambes coupées, comme lorsqu'on agonise en fait, hein, quand on fait une hémorragie et qu'on se vide complètement. Alors, je sais pas si on peut réellement imaginer ce qu'il devait ressentir à ce moment précis. Mais en étant rempli de compassion, on peut tout à fait déjà trouver ça insupportable. Bien avant qu'il soit crucifié, déjà de savoir qu'il a souffert comme ça, c'est assez intolérable en fait. Et pourtant, bah voilà, on est un peu confronté à la même chose, nous, hein, quand on traverse des épreuves. Alors justement, Luc 22 au verset 44 nous dit: Étant en agonie, toujours Jésus, hein, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voilà, donc c'était pour bien expliquer. Les termes qui étaient employés, alors en fonction des traductions, on a justement des choses plus précises encore, hein. Alors en fait, ben moi j'ai envie de vous dire, il y a rien de nouveau sous le soleil, hein, comme nous dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien que nous subissions comme douleur que Jésus n'ait pas connue, ou comme difficulté par laquelle Jésus ne soit pas passé. Alors pourtant, la Bible nous dit qu'il ne cessait de prier, alors que les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, en qui il avait le plus confiance ici sur terre, hein, parce que sinon il a surtout mis quand même sa confiance en son père, mais c'est vrai qu'il était proche de ses trois disciples, un peu plus que des autres. Donc, il les avait emmenés avec lui parce qu'il avait confiance en fait. Mais ses trois disciples n'ont pas pu veiller, ne serait-ce que plus d'une heure quoi avec lui. Souvent c'est pareil pour nous. Quand on est dans les épreuves et l'incertitude comme ça, que tout s'écroule autour de nous, quand on fait le bilan, en réalité, combien avons-nous de vrais amis qui nous épaulent et nous soutiennent? Pas tant que ça, à vrai dire. Et ce passage est là justement pour que nous comprenions que nous ne devons pas mettre notre confiance en l'être humain. Il y a plusieurs passages aussi dans la Bible, hein, qui nous demandent, où Dieu nous demande de ne pas mettre notre confiance dans l'homme. Alors prier et veiller, c'est le conseil que Jésus ne cesse de nous donner, hein, à plusieurs reprises dans les évangiles. Parce qu'il sait très bien que dans les difficultés, il faut prier et rester soumis aux pieds du Père. Voilà. Parce que c'est ce que lui, il a fait. Mais même en le faisant, il a quand même souffert. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que dans les épreuves, on va souffrir. Bien sûr que prier, ça n'enlèvera pas la douleur. Mais on devra quand même affronter ces montagnes qui se dressent devant nous. Mais la foi, elle, elle va nous porter vers la volonté de notre Père céleste. 1 Corinthiens 10 au verset 13 nous dit: Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, je ne sais pas si autour de vous, beaucoup de gens ont eu l'exemple de proches qui restaient calmes, en paix, ou méditaient la Bible, persévéraient dans la prière, etc., au moment des plus grosses difficultés. C'est difficile, hein, et en fait, moins nous le faisons ça, plus notre cerveau est embrumé, parce que l'ennemi appuie toujours là où ça fait mal. Il s'arrange toujours en fait pour justement nous enfoncer un peu plus et nous empêcher justement de trouver cette paix que le Seigneur veut nous donner, de nous mettre dans une bulle pour méditer la Bible ou pour prier. Et pourtant, c'est bien ce que nous demande le Seigneur, hein, et c'est bien ce qu'il nous demande de faire, hein, parce qu'il sait que lorsque nous fixons nos regards sur lui, il peut agir seulement à ce moment-là. Donc c'est comme si on devait traverser un gouffre sur un fil tendu, par exemple. Et qui nous tenait les mains en nous disant regarde-moi dans les yeux et tout ira bien. Ne regarde ni à droite ni à gauche, encore moins en bas. Alors bien entendu, lorsqu'on regarde justement à ce qui peut nous arriver, si on rate l'objectif, c'est comme si on était happé, parce que notre attention ne va rester focalisée en fait. Sur ça, sur l'échec. Et c'est ce qui va nous pousser à échouer, justement. Donc, plus on pense à l'échec, et plus on court vers l'échec, plus nous laissons notre bouche dire des choses décourageantes, et plus nous déclarons la malédiction, en fait, sur l'issue de cette épreuve, ou sur nous-mêmes, parfois. C'est mathématique. Comme 2 plus 2 font 4, les mauvaises pensées plus les paroles de découragement égale échec. Et ça, Jésus le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'être complètement focus sur lui et rien ni personne d'autre. Afin que ben, nous fermions nos oreilles et nos yeux spirituels à ce que l'ennemi va nous envoyer à ce moment-là. Oui, c'est très dur. C'est très dur, mais si le Seigneur nous demande de le faire, c'est qu'il nous en croit capable. Alors, pour donner quelques exemples, justement, un parmi tant d'autres, dans le livre des Actes des Apôtres, les récits en général qu'on peut lire nous racontent certaines des épreuves par lesquelles ont dû passer les apôtres, justement pour faire passer le message de l'Évangile. Ils ont donné leur vie, hein, pour ça, hein, leur vie entière. Ils ont laissé des plumes, hein, parfois. Alors personnellement, si je devais en subir le quart, je sais pas si j'arriverais à me réjouir si facilement. Et pourtant, bah, eux, après avoir été arrêtés, emprisonnés, sans rien manger pendant des jours, et puis battus, bah, ils étaient quand même dans la joie d'avoir servi le Seigneur Jésus. C'est admirable. C'est vraiment un exemple dont il faut qu'on s'inspire, en fait. Acte 5, au verset 41, nous dit justement, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc ça, c'est le passage où ils ont été arrêtés, mis en prison, battus, je pense, hein, parce que ça, l'un n'allait pas sans l'autre. Et puis un ange les a délivrés, mais en laissant la porte de la prison complètement fermée. Et le lendemain, quand ils sont venus les chercher, ils n'étaient plus là, ils étaient dehors, devant le temple, en train de parler du Seigneur Jésus. Donc ils ont encore été arrêtés. Et après, ils sont passés justement devant le Sanhédrin, les grands religieux. Et voilà, et certains ont dit, eh bien, laissez-les partir parce que si vous luttez contre eux et que Dieu les envoie, c'est contre Dieu que vous luttez. Donc, c'est, voilà, c'est un beau message parce que c'est là qu'on se dit, quelquefois on peut se dire, ah bah tiens, le Seigneur, il nous délivre, mais il nous demande d'y retourner. En fait, alors on peut se poser la question, mais pourquoi? Mais en fait, si les apôtres s'étaient demandé pourquoi, il n'y aurait pas eu justement cette possibilité au Seigneur d'être glorifié par cet acte-là. Parce que même des gens qui a priori étaient hostiles envers les apôtres ont fini par. C'est eux qui ont plaidé en fait pour libérer pour la cause des apôtres et pour qu'ils soient libérés. Donc c'est extraordinaire en fait ce que le Seigneur peut faire. Donc c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance et pas se poser des questions. Ben, finalement, c'est pas à nous de nous en occuper quoi. C'est lui qui a la réponse. Il sait là où il nous envoie. Et c'est ça, en vérité, être serviteur du Seigneur. C'est se réjouir des épreuves qui nous sont infligées parce que le résultat portera du fruit. Alors, attention toutefois à pas attribuer enfin, les épreuves à la mauvaise personne, hein. C'est pas notre Père aimant et bienveillant qui nous les inflige, ces persécutions ou ces épreuves. Mais au contraire, il nous donne la solution. Parce que lui, il sait très bien que quoi qu'il arrive, tant que on sera dans nos corps terrestres, nous devrons en passer par là. On aura des épreuves, on sera persécutés. Nous vivons dans l'ère du péché et Satan n'aime pas les enfants de Dieu. Son but, c'est de les anéantir. Alors, il nous pose des mines sur notre chemin, dans l'espoir que de nous faire sauter dessus, hein. Comme dans les grands pays d'Afrique où il y a des gens qui sautent, des innocents qui sautent sur les mines. Bah, s'il lui était possible de nous faire tomber, il nous ferait tomber. Et seule une foi inébranlable et une connaissance parfaite de qui est notre Seigneur et ce qu'il nous réserve à la sortie, nous permettra de tenir ferme. Alors il faut se fixer sur la joie et la paix que Jésus nous donne, qu'il veut nous donner dans les épreuves, pour ne plus sentir la douleur physique justement et pouvoir échapper en esprit et aller à ses côtés justement, là où il n'y a pas de douleur ni de larmes. Acte 7 au verset 55 nous parle d'Étienne. Ça nous dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ce verset, moi, il me transperce profondément parce que comment on peut, en étant lapidé, ne plus rien sentir au point de prier pour ses persécuteurs et se réjouir dans ce qui nous arrive? C'est assez incompréhensible et pourtant la réponse, elle est dans le verset en fait. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit de Dieu pour qu'il en soit ainsi. Et alors seulement, nous pourrons avoir cette capacité de surmonter toutes sortes d'épreuves, même jusqu'à la douleur physique extrême avant la mort. Romains 15, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut venir chercher au pied du Seigneur, dans la prière chaque jour, et pas attendre de prier dans les épreuves pour le recevoir parce que c'est trop tard, mes frères et sœurs, au moment où l'épreuve arrive. Il nous faut veiller et prier sans cesse, comme nous a demandé Seigneur Jésus, afin que le Saint-Esprit nous donne la provision de ce dont nous aurons besoin dans les moments difficiles. À l'image des vierges sages, hein, qui avaient fait le plein d'huile au moment où la trompette a sonné, où elles ont entendu la trompette. C'est pas quand il y a une famine qu'il faut faire des provisions. Il y a plusieurs passages dans la Bible, hein, qui nous parlent de ça. Il y a le passage de Joseph, hein, quand il a été gouverneur d'Égypte, où justement il avait réussi à décrypter le rêve du pharaon et enfin les rêves, et ses rêves parlaient justement de la famine qui durait pendant 7 ans. Et sur les conseils justement de Joseph, ben, il a permis que l'Égypte justement ne subisse pas cette famine, parce qu'ils ont pu faire des provisions suffisamment longtemps à l'avance. Nous, on est un peu, il faut qu'on fasse comme ça. C'est notre provision en fait, la prière. Étienne, lui, il était tellement rempli de l'Esprit de Dieu que cette protection divine l'anesthésiait totalement. Anesthésier complètement la douleur de ses membres, en fait. Mais c'est ça, la clé. Il voyait déjà ce qu'il attendait, et il était comme aspiré par la gloire de Dieu avec Jésus qui lui tendait les bras. Il y a un autre exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Pardon, Abednego, qui ont vécu la même expérience lorsqu'ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Alors que le roi Nebuchadnezzar avait fait ériger une statue en son honneur et que tous les habitants de Babylone devaient se prosterner devant elle au son de la trompette, les trois fidèles juifs ont refusé d'exécuter cet ordre et ont défendu l'honneur de leur Dieu. On va lire un petit passage justement dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. On nous dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Par la foi, ils ont déclaré devant le roi le plus puissant qu'ils avaient confiance en leur Dieu, même si celui-ci ne choisissait de ne pas les délivrer, en fait. Ils mettaient leur espérance dans une autre vie que celle-ci. En même temps, ils étaient des Juifs qui avaient été enlevés très jeunes à leurs parents pour servir en toute captivité dans Babylone, la grande capitale de l'iniquité. Et ils étaient au service d'un roi, du roi le plus tyrannique en fait, hein. Mais ceci dit, ils avaient vu la main de Dieu sur leur vie parce qu'ils étaient quand même, ils avaient été placés à des postes privilégiés puisqu'on leur avait confié la gouvernance de l'administration de la province de Babylone tout de même, hein. C'est quand même pas rien, hein. Ils avaient des postes extrêmement bien, bien placés, ils étaient bien vus. Donc c'est une petite parenthèse. Mais justement, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient tellement affermis dans leur foi qu'à peine ils étaient entrés dans la fournaise, que Jésus était déjà là pour les envelopper de sa gloire protectrice et les protéger du feu. Alors qu'on nous dit au verset 22 que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, justement, c'était tellement chauffé, c'était tellement ardent comme feu que bah, les hommes qui ont eux-mêmes jeté nos trois amis là dans la fournaise, bah, ils sont morts alors que eux ne sont pas morts. Voilà. Donc, bah, parce que voilà, quand on a la protection du Seigneur Jésus, on ne meurt pas. Alors, je vous encourage à lire ce passage, mes frères et sœurs, et à méditer dessus, parce que comment trois hommes ligotés et jetés dans un four 7 fois plus chauffé que d'habitude pourraient-ils ressortir sans une seule brûlure, sans même une seule goutte de sueur perlant sur leur front, si c'est pas la puissance extraordinaire de Dieu? Voilà. Donc, cet encouragement est magnifique, moi, je trouve. Faut pas hésiter à méditer dessus, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Et c'est ainsi que Dieu veut nous voir sortir des épreuves, en fait, sans une goutte de sueur et sans une égratignure. Matthieu 5 au verset 12 nous dit: Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La preuve, hein? La preuve, hein, parce qu'eux, ils ont été persécutés, les apôtres aussi, Étienne, on n'en parle pas, mais justement, si on se fixe sur Étienne, comme sur les trois amis de Daniel, hein, ou comme sur Daniel lui-même aussi dans la fosse aux lions, sur le royaume dans lequel nous pouvons et même nous devons nous réfugier à chaque instant en esprit pour échapper à la douleur, la tristesse, et l'angoisse. Il faut se fixer sur ces exemples-là. C'est très fortifiant. Alors Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous dit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous, on a une partie de la réponse que nous cherchons dans ce verset. Parce que il nous faut passer par les épreuves pour être accompli et parfait. En fait, on passe par le feu, nous aussi. Parce que c'est par les épreuves que Dieu voit notre foi et notre fidélité. C'est au travers des épreuves que on se prépare à ne faillir en rien, qu'on se fortifie et que le Seigneur fait son œuvre en nous. Mais aussi parce que Christ est notre modèle et que si nous mourons à nous-mêmes, nous vivons par Christ et en Christ. Alors, nous serons la cible évidemment de notre ennemi juré, mais comme l'a toujours été Jésus jusqu'à sa mort en fait, hein. Mais quand on regarde avec un peu de distance, quel honneur de vivre pour ce Seigneur merveilleux et tout-puissant. La part qui nous est réservée est infiniment plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais nous ne pouvons pas y prendre part sans prendre d'abord part aux souffrances que Jésus a endurées pour nous. 1 Pierre 4 au verset 13 nous dit: Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Alors, en conclusion, je vais faire assez simple. Pas de vie éternelle sans repentance. Pas de service pour le royaume de Dieu sans engagement. Pas de patience sans les épreuves. Pas de relation intime avec Dieu sans la foi. Pas de victoire sans combat. Et pas de récompense sans joie dans les épreuves. Autrement dit, Dieu nous donne toutes les clés dans sa parole et ne nous laissera jamais tomber. Il est fidèle, il accomplit toujours ce qu'il promet, dans un sens comme dans l'autre. Mais sa parole nous dit aussi que nous récolterons que ce que nous aurons semé. À nous de semer les bonnes graines. Alors réjouissons-nous, semons pour le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Et je termine avec un dernier passage dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21, qui nous dit: Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous avec efficacité, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'assemblée en Mashiach Yehoshua, Jésus-Christ, pour toutes les nations, pour les âges des âges. Amen. Soyez puissamment bénis, mes frères et sœurs. Shalom à tous.